Paso Doble.
Paso Doble.
Le grand entretien culture des petits matins. Jeudi, Polar.
Bonjour François Valéjot.
Bonjour Tofik Hakem.
Un dangereux plaisir, tel est le titre de votre dernier ouvrage paru chez Viviane Ami. Un roman de suspense riche en rebondissements qui met en scène un héros dépassé par les événements, c'est le moins que l'on puisse dire, car sa seule passion à lui, c'est la cuisine. Un polar ? Peut-être, mais c'est d'abord un récit culinaire. Le héros de votre roman, Élie Eliade, a un nom de prophète, je suppose que ce n'est pas un hasard.
Pas complètement, non, parce que j'ai remarqué que la Bible était pleine de nourriture, pleine de plats, donc on utilise sans cesse pour des stratégies personnelles, politiques, etc. Alors, je me suis dit qu'un cuisinier qui se lance dans les affaires à la fois privées, puis qui se retrouve embringué dans des affaires politiques aussi, malgré lui, c'est un petit peu une sorte de prophète.
Ouais. Alors, c'est quoi votre définition de prophète, hein? Parce que on ne sait pas s'il est pur ou naïf, ou un peu des deux.
Oh oui, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt un vrai naïf, c'est-à-dire qui...
Dans le bon sens du terme.
Voilà, qui voit les choses, mais qui ne se perçoit pas jusqu'où les choses le mènent. Et c'est ça qui fait qu'il avance, il avance, il avance, et il finit toujours par arriver quelque part.
Racontez-nous comment il est arrivé à cette passion, la cuisine.
Tout simplement, il est arrivé à la passion de la cuisine en détestant manger.
Ouais.
Et c'est ça qui est son paradoxe et qui fait toute sa force, c'est que c'est un enfant qui ne supporte pas la nourriture qu'on lui donne, celle de ses parents, qui sont des gens très austères, qui trouvent ça absolument abominable jusqu'à un âge assez avancé, jusqu'à ce qu'il découvre... dans son quartier, des situations bizarres, des gens qui travaillent, qui préparent des choses tout à fait surprenantes, et il comprend que c'est ça, la cuisine. Et puis aussi un jour, il finit par, alors qu'il est puni sans cesse pour ses refus de la nourriture, et il reste devant son plat, absolument immonde, toujours, eh bien, une voisine passe et lui... dépose une tarte aux fraises, et d'un seul coup, c'est comme une espèce de révélation. Alors là, justement, comme un prophète qui aurait une vision divine. Et pour lui, c'est la rencontre avec le manger, avec la mangeaille. Enfin, et le plaisir que ça peut supposer.
Alors, l'histoire se passe à Paris, mais dans quel Paris évolue-t-il votre héros? Vous qui nous avez habitués à des romans ancrés dans l'histoire, vous nous donnez que très peu de renseignements sur cette histoire qui se déroule dans un passé jamais précisé, sinon que c'est un Paris en émeute qui sert de décor aux mésaventures de votre cuistot, François Valéjot.
Oui, alors justement, Paris en émeute, c'est finalement quelque chose d'assez contemporain.
Vous réussissez très bien justement cette cuisine-là.
Oui, exactement. Oui, pour moi, la cuisine ayant à la fois deux dimensions, c'est-à-dire une dimension temporelle, concrète, on mange différemment suivant les lieux, suivant les époques, mais en même temps, il y a quelque chose d'intemporel aussi dans la cuisine, et on recycle les mêmes plats, les mêmes nourritures, la même matière qu'on transforme différemment, mais il y a quelque chose de persistant, et c'est vrai que cette histoire, pour moi, elle a quelque chose de persistant aussi, et parce que j'ai tendance à dire qu'elle appartient à aujourd'hui, et tout en disant qu'aujourd'hui, c'est très large, et que on est toujours aujourd'hui, et si on était il y a 50 ans, il y a 50 ans, c'était aussi aujourd'hui. Il y a 60 ans, c'était il y a aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Donc, on est toujours dans une espèce de monde très présent et totalement intemporel en même temps. Et
mais
donc,
dans votre roman qui est truffé de recettes de cuisine, vous êtes bien arrangé pour que on n'ait pas quelques indices sur l'époque. Il n'y a pas de nouvelle cuisine, par exemple.
Non, il n'y a pas de nouvelle cuisine, mais il y a des indices. Et les premiers lecteurs que j'ai déjà eus se sont tous acharnés à me dire « Pour moi, ça se passe vraiment aujourd'hui. » Puis d'autres, ça se passe dans les années 50. D'autres, ça se passe dans les années 30. Déjà, j'ai eu plusieurs échos qui montrent que chacun voir la cuisine à son temps ou en un temps donné qu'il imagine. Enfin, et chacun projette son imaginaire sur cette cuisine. Et je me dis que c'est peut-être ce que je voulais faire sans en avoir une claire conscience.
Mais pourquoi en tout cas, pour vous débarrasser de votre passé historique, vous qui travaillez avec les faits historiques pour vous lancer dans des fictions, ce que vous avez longtemps fait, François Valéjour.
C'est vrai que j'ai utilisé l'histoire, mais c'est toujours une histoire que j'ai rattachée au présent. Et de fait, là, c'est presque le contraire. C'est je pars d'un présent que je rattache au passé. Et donc, pour moi, c'est vraiment une cuisine qui peut circuler dans l'imaginaire de chacun et pour qu'il puisse y greffer les suggestions que cette cuisine lui fait, comme quand on mange quelque chose, eh bien, ça peut faire apparaître en nous, réveiller en nous des sensations, alors justement qui peuvent être des sensations de l'enfance ou des sensations d'un lieu. Et donc, pour moi, c'est autant de suggestions culinaires que le roman peut proposer.
Que représente la cuisine pour vous, François Valéjour ?
La cuisine, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans ma propre vie, au sens où j'aime la pratiquer, où j'aime la travailler, et je...
Depuis toujours?
Depuis très, très tôt. J'ai commencé justement, j'étais moi-même un enfant qui ne mangeait pas, qui détestait la nourriture et qui l'a découverte un jour. Et pour
pas
moi.
Pas dans les mêmes conditions que votre héros, Eliane.
Il y a quelque chose aussi que j'ai emprunté à cette existence. Et puis pour moi, c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'essentiel parce que je l'ai appris autour de moi, dans ma propre famille, ou en tout cas certains membres de ma famille m'ont initié à certaines pratiques culinaires que j'ai gardées et que j'ai développées. Et pour moi, c'est un élément important de ma vie. Presque autant que d'écrire des romans.
Avant d'être cuisinier, avant de tenir un restaurant, et dans des conditions d'ailleurs très rocambolesques, je laisserai les auditeurs découvrir eux-mêmes comment Eliane va vivre sa carrière, il est d'abord le commis. Est-ce que vous-même, François Valéjour, vous prenez du plaisir à aller faire votre marché ?
Ah oui ! Ça, c'est pour moi quelque chose d'essentiel parce que c'est la cuisine, elle commence là, c'est-à-dire dans le regard sur une pièce, sur un poisson, sur un morceau de viande, sur quelque chose qui est là devant nous et qui crée justement tout de suite l'imaginaire. C'est-à-dire que quelque chose va être transformé. Et là encore, il y a quelque chose de romanesque, puisque on part de rien, de presque rien, et puis ça doit suggérer d'un seul coup un univers, un développement, une organisation, quelque chose d'extrêmement complexe, et en même temps qui doit être simple à déguster. Donc pour moi, l'analogie fonctionne à tous les points de vue.
Et les recettes contenues dans ce roman, c'est-à-dire Un dangereux plaisir, chez Viviane Amy, François Valéjour, elles sont du personnage principal, Eliane, donc de vous-même.
D'une certaine manière, oui. Et puis, surtout pour moi, les recettes sont aussi des personnages. Parce que, d'une certaine façon, chaque fois qu'une recette intervient, elle joue un rôle dans l'action, dans la situation du personnage. Il y a un moment, par exemple, où sa première recette, c'est de donner à manger aux oiseaux et donc de préparer suffisamment sa nourriture pour la distribuer, que chacun des oiseaux qui passent, des corbeaux, ait ce qu'il faut. Et à ce moment-là, pour moi, c'est un moment important pour l'action, tout simplement.
La musique que vous avez choisie, François Valéjour, pour continuer notre discussion ce matin autour d'un dangereux plaisir, est une drôle de musique. Thank you. C'est votre choix, François Valéjour. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
Eh oui, une petite valse, l'huile de ricin de Rossini.
Ouais.
Ah, parce que Rossini a décidé d'arrêter la musique un jour, ou au moins d'arrêter les opéras. Et pour une seule raison, c'est que il aimait trop manger, il aimait trop faire la cuisine, et il a décidé d'arrêter cette vie de compositeur d'opéra pour faire d'abord à bouffer. Ouais. À tout le monde, et de temps en temps il a écrit quand même quelques œuvres après, mais qui n'ont jamais été des opéras, et en particulier il y a toute une série de musique culinaire comme ça liée à la
Et vous faites le rapprochement, parce que pour moi cette musique elle est plutôt aérienne, on n'a pas envie de manger, on a envie de, au contraire, d'être de plus en plus léger pour continuer cette valse.
Oui, c'est vrai, oui, mais manger c'est une manière de s'alourdir pour devenir plus léger.
Rétroviseur.
C'est vrai que j'ai publié un certain nombre de livres qui, pour certains lecteurs, passaient presque pour historiques. Dans mon esprit, ce n'était pas vraiment le cas. C'était des livres qui parlaient toujours d'aujourd'hui, qui prenaient le détour du passé, de l'histoire, parfois. Mais c'est vrai que pour moi, il s'agissait d'abord et toujours de me confronter à l'aujourd'hui. Alors, peut-être est-il arrivé un moment où cet aujourd'hui s'est imposé plus fortement à moi et où j'ai eu envie et le besoin d'en parler directement, sans masque et sans passer par le truchement du passé.
C'était en 2012, au micro d'Alain Weinstein. Vous disiez cela, François Valéjour, à l'occasion de Métamorphose, de la sortie de Métamorphose.
Ouais.
Voilà. C'était pour vous quelque chose de nouveau que de pouvoir écrire sur le présent. Mais c'est pas le cas avec Un dangereux plaisir, puisqu'il n'y a pas de temps.
Il n'y a pas de temps, oui, c'est ça. Mais
échapper au temps.
Mais chaque livre est lié au temps, c'est ça que je commence à comprendre. Et soit il a été lié au temps parce que je m'inscrivais dans l'histoire, soit il a été lié au contraire à la volonté de s'inscrire dans le présent avec Métamorphose, avec les questions de l'islamisme radical les plus urgentes. Et puis, cette méditation sur le temps est continue, c'est vrai, à travers cette façon d'échapper au temps, ce rêve d'intemporel qui pouvait être celui de Julien Gracq, par exemple, qu'on pouvait retrouver dans Le Rivage des Sirtes ou dans Les Terres du Couchant, qui est sorti récemment et qui m'avait troublé parce que j'étais en train d'écrire ce dangereux plaisir et je croisais de nouveau Gracq et cette espèce de temps sans véritable marque. Et ça m'a troublé, cette rencontre-là. Alors, je me suis dit que c'était vraiment un élément de réflexion pour moi fondamental. Approcher le temps, essayer de le comprendre à chaque fois par un biais différent, c'est peut-être l'enjeu de chaque roman.
Ouais. Et ça évolue avec le temps, justement ? Avec le temps de votre vie, François Valéjour ?
Oui, c'est... Et c'est vrai que, par exemple, j'ai longtemps fui l'autobiographie, hein, considérant que c'était quelque chose qui ne me collait pas ou qui ne me correspondait pas. Et puis, je m'aperçois que la récupération de certains moments, même si c'est pour les transformer, si c'est pas pour en faire de l'autobiographie, d'un seul coup, cette expérience vitale passée, j'ai l'impression d'être à même aujourd'hui de la retrouver, de la faire macérer de manière différente et d'en faire un outil de transformation romanesque nouveau.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un bel hommage au restaurant de Paris, votre roman Un dangereux plaisir ?
Oui, je crois que c'est un hommage à au plaisir de manger d'abord, mais aussi au plaisir de faire manger, qui est quelque chose d'extrêmement complexe pour moi, parce que c'est une question, à qui s'adresse-t-on quand on fait manger quelqu'un ? Est-ce que on lui impose quelque chose ? Est-ce qu'on lui permet de s'introduire dans une nouvelle dimension ? Est-ce qu'on agit sur lui ? Parce que la nourriture, ça peut être aussi agir sur quelqu'un, agir sur non seulement sa digestion, mais agir aussi sur sa sensibilité. Donc il y a tout un...
Ah, on y arrive. Justement, je voulais vous demander, poser cette question à la fin. Est-ce que la cuisine nous représente, parle de notre culture, pour ne pas utiliser le mot civilisation ? Ou pour être plus simple, est-ce que quand vous vous rendez chez des gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez avoir une idée de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent à travers la cuisine qui vous prépare?
Ah oui, je crois que c'est pour moi l'expression de la sensibilité de chacun, et celui qui nous fait à manger, on sait qui c'est. Une fois qu'on a fini de manger, on sait à qui on a affaire. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un passage dans le livre où le garçon est nourri sans le savoir, quelqu'un lui a posé une assiette alors qu'il est un petit peu SDF, et il analyse le plat qu'on lui a mis, et il essaie de comprendre qui ça peut être, et il finit par se dire, voilà, c'est une femme, elle est plus âgée que celle que j'ai vue avant. Il est d'un seul coup en train, à travers un plat, il est en train d'analyser la personnalité de qu'il imagine comme cuisinière cachée derrière.
Mais il va reproduire cette scène, il va jouer cette fois-ci le rôle de la femme une fois qu'il sera établi dans son rôle de cuisinier. Vrai. Il y a des recettes de cuisine dans votre livre, François Valéjot, Un dangereux plaisir. Et si, vous nous partagiez une, là, tout de suite, à la radio ?
Oui, des escargots parfumés à la flûte.
Allez !
Commençons par sélectionner autant de douzaines d'escargots, de belle grosseur que de convives, et rinçons-les.
Les convives ?
Peut-être les convives, mais surtout les escargots.
D'accord.
Belle grosseur, j'y tiens, et déjà parfumé dans le jus d'un bocal en verre. Hachons menu une échalote ainsi qu'une demi-botte d'estragon. Deux giclées de vin blanc, Sauvignon de Saint-Brie. Chauffons le tout vivement dans une casserole étamée jusqu'à presque complète réduction. Une crème de ferme de printemps ayant dépassé la date de péremption, n'ayons pas peur.
Vraiment ?
Bah non, péremption ou pas, c'est de la crème.
Bon, c'est pas une recette diététique, mais ça a l'air bon tout ça.
Deux cuillerées en baissant la flamme. Le beurre froid en morceaux, pas diététique non plus. Par petits bouts, à volonté, en les battant au fouet, jusqu'à ce que ça mousse. L'émulsion tient ? Râpons au-dessus quelques lambeaux de gingembre. Ajoutons du poivre du moulin. J'ai fait fondre, dans une poêle à côté, des bouts de lard gras de Bourgogne. C'est pas un pléonasme, ça existe. Ouais. Et quand le gras bien blanc a filé, reste l'invraisemblable goût de grillé. Jetons-les dans l'émulsion, en même temps que les escargots. Mélangeons soigneusement le tout, en maintenant un petit bouillon mousseux. Nous servirons aussitôt dans des flûtes à champagne pour honorer par la délicatesse la sauvagerie apparente des ingrédients.
Voilà. Et c'est pas la bonne saison hein, pour les escargots, pas encore, quoique il n'y a plus de saison.
Dans les bocaux, il n'y a pas de problème.
C'est vrai ? Et c'est quoi la bonne grosseur d'un escargot ?
Ah, c'est la belle grosseur, mais il y a même les très belles grosseurs, il y a encore plus gros. Mais oui, ça peut faire au moins 2 cm de diamètre.
C'est une de vos recettes, complètement inventée par vous, adaptée par vous, disons.
Adaptée, ouais. Transformée, puis rendue excessive pour le plaisir de... d'aller plus loin.
Quelle est votre culture, François Valéjot ? De quelle région de France
avez-vous
eu votre culture culinaire ?
Ma culture culinaire, elle a plutôt été liée à l'ouest de la France, c'est vrai. Mais elle a toutes sortes de ramifications plus au sud, au-delà des Pyrénées aussi. Donc la cuisine, c'est aussi un mélange.
Merci François Valéjot d'être passé. Ce matin, je rappelle, le titre de votre roman, Un dangereux plaisir, est édité chez Viviane Amy. Merci.
Merci.
pouvez réécouter cette interview en passant par franceculture.fr ou vous abonner au podcast de Pasodoble. Pasodoble, tous les lundis littérature, tous les mardis les expos, les mercredis cinéma, les jeudis comme aujourd'hui polar et demain on parlera bande dessinée comme tous les vendredis. Et demain je serai avec Lewis Trondheim et Brigitte Findakli pour la bande dessinée éditée par l'association Coquelicot d'Irak.